Good Morning Business, le grand débat.
Le grand débat à 8h37, il a déjà commencé sur ce plateau parce qu'évidemment on parle tous d'inflation, de hausse des prix, on va parler tout ça ensemble avec...
Les invités sont venus avec leurs factures, c'est pour ça aussi.
C'est intéressant, on peut commencer par ça, Raphaël Bloch, David Go et Stéphane Manigold. Effectivement Stéphane est venu avec sa facture d'électricité qui va faire quoi, fois 8
Fois 16.
Fois 16 l'an prochain. Bon. Vous allez passer de 58 000 euros de charge d'électricité, à 668 000 euros.
Ah non, c'est même plus, c'est 981 000 euros, donc près d'un million d'euros.
Ah oui. Ah oui,
mais on avait enlevé les dettes de l'État. La gentille aide de l'État de 300 000 euros. Autant vous dire que c'est insupportable. Ah, bon. Aujourd'hui, on est dans une situation où on coche, nous, PME, entre guillemets, TPE, pardon, on coche la case des moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est le cas. Mais vu que je fais de la vraie restauration, bah, j'ai besoin de 23 salariés. Or, dans la définition de ce que considère l'État une TPE, bah, c'est moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés et surtout tarif jaune. Donc moi, en fait, je prends la triple sanction.
C'est-à-dire que vous voudriez le tarif réglementé ?
Ben oui, 15% d'augmentation, c'est pas 100. Là, on est à 1576% d'augmentation. Il n'y a personne qui s'est absorbé une onde de choc aussi puissante.
Mais Jean-Marc Vitori disait tout à l'heure, à un moment donné, il va falloir payer la vérité des prix, c'est-à-dire les prix de l'énergie.
Ah, écoutez, moi, je n'ai pas de problème. Ça veut dire qu'on massacre aujourd'hui l'artisanat français au profit de la malbouffe, des kebabs, etc. Là, effectivement, ces critères-là de protection que le gouvernement a mis en place, pour la malbouffe, il n'y a pas de problème. Ceux qui font de la cuisine micro-ondes, le marché des 54 milliards de la malbouffe, eux, ils sont protégés. Par contre, ceux qui font rayonner la France à l'international, ce qui fait que des touristes viennent dans notre pays, ce qui fait que la France pèse 8 points de PIB, notre secteur pèse 8 points de PIB, le tourisme, eh bien, eux, on va les massacrer. On va les massacrer alors que demain, nous avons la Coupe du Monde de rugby qui va arriver et les Jeux Olympiques. Là, on est très content d'accueillir ces événements, mais il n'y aura plus de restauration traditionnelle parce que, à nouveau, pour faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moi, j'ai besoin de 23 salariés. Je n'avais pas besoin de 10, j'en ai besoin de 23.
Elles doivent changer. Vous faites vraiment la distinction entre la malbouffe, ceux qui font de la bonne cuisine, ceux qui ont des salariés. Donc, vous voulez vraiment que l'État aujourd'hui dise « Je vais aller aider ceux qui font de la bouffe correcte et je vais ne pas aider ceux qui font de la malbouffe ». Mais c'est impossible,
Mais il faut changer les curseurs, il faut changer les règles. Vous pouvez pas... Enfin, moi, en 2018, j'ai amorcé la transition énergétique. En tant que citoyen, chef d'entreprise engagé, transition énergétique, c'est-à-dire quoi ? Que j'ai supprimé partout mes pianos au gaz. Mais en supprimant mes pianos au gaz, je passe au tarif jaune, puisque j'ai besoin de plus d'électricité, puisque je supprime une énergie que je remplace par une énergie dite propre. Et en faisant ça, eh bien, je sors de tous les dispositifs existants. Donc oui, aujourd'hui, si Bruno Le Maire, si Olivier Grégoire ne change pas les règles, eh bien, on va massacrer la restauration traditionnelle française.
Alors c'est intéressant Stéphane, parce que c'est très concret, ça concerne une PME, mais les grands groupes aussi sont en pleine phase de réflexion. Il y a eu une réunion hier soir autour d'Emmanuel Macron avec 50 grands patrons de l'industrie européenne, parce qu'effectivement les prix de l'énergie flambent en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis hein, par exemple, et certains groupes, on parle de Safran, on parle de Toshiba en France, se disent, est-ce que je vais vraiment maintenir mes projets d'investissement en France? Il y a un vrai risque de bascule sur l'industrie européenne et américaine. David Go.
Notamment dans la situation de la France, c'est intéressant ce que vous mentionnez sur les États-Unis, parce qu'on a vraiment une approche très différente entre les deux pays. On a du côté la France donc, qui commence par d'abord protéger les ménages, et puis après on remonte la chaîne vers les toutes petites entreprises, les entreprises moyennes, les grandes entreprises, et comme vous le dites, en fait, actuellement on s'arrête au niveau de ces entreprises moyennes. En fait, il y a une difficulté à bien catégoriser. On voit aux États-Unis l'inverse avec l'Inflation Reduction Act, qui lui, en fait, va distribuer plus de 50% en fait, de ces 400 milliards aux entreprises.
Aux grandes entreprises.
Toutes les entreprises. Et quand on regarde la portion qui va aux ménages, c'est un tout petit peu plus de 10%. Et en fait, la logique américaine, c'est de dire on va maintenir l'outil économique qui va créer des emplois, qui va permettre d'éviter les déficits.
En logique.
On va continuer à pouvoir lever des impôts. Donc il y a vraiment une pensée à long terme. Alors que c'est vrai qu'en France...
Mais on n'est pas des Américains, Stéphane. Enfin, la culture n'est pas la même.
Mais vous avez raison, on est en Europe. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, contraint la France à mettre des règles aussi dures sur ses entreprises ? Non. Il faut arrêter de... Moi, j'ai lu les latitudes qu'ont chaque pays en Europe. L'Europe serait aussi protectrice pour l'ensemble de son secteur et de ses entreprises si la France appliquait ni plus ni moins ce que l'Europe autorise à ses États membres.
Oui et non, parce que regardez, on a voulu à un moment donné se dire on va calculer le prix de l'électricité comme les Espagnols. On a beaucoup de nucléaire, après tout, on a 70% d'énergie nucléaire, on ne va pas appliquer le prix européen marginal du gaz. On n'a pas eu le droit.
Ça, c'est un autre sujet. Bah, moi, je parle des mécanismes de protection, puisqu'on était sur les mécanismes de protection. Est-ce que la France peut intervenir et protéger des entreprises comme les miennes qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont...
Non, mais Stéphane, ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est de plafonner les prix de l'énergie, c'est pas de vous subventionner.
Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, et d'autant plus qu'on le voit bien. J'étais jusqu'à près d'une heure du matin pour comprendre entre les FAQ, le dispositif, le communiqué de presse, etc. À un moment, j'en pouvais plus. Mais la question qu'on peut valablement se poser, c'est quand Total Energy, moi j'étais vent debout sur la taxation des super profits, mais quand Total Energy facture x16, à un moment, bah, je suis le premier à me reposer la question, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas des super profits là? x16, 1600% d'augmentation. Ouais. Moi, si demain j'augmente mes prix de 1500%, j'ai plus un client. Ouais. C'est un monopole qui nous étrangle.
Raphaël Bloch.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on voit bien dans votre situation que finalement, les grands groupes ont été plutôt épargnés. Oui, non, mais exactement, mais je veux dire, dans les entreprises de taille moyenne, que finalement, les grands groupes ont plutôt été épargnés par la crise. On a des dispositifs qui permettent d'aider les petites entreprises, et en fait, le souci se situe au niveau des entreprises qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et qui se retrouvent à chaque fois prises en étau entre finalement des grands groupes qui sont à l'abri et des petites entreprises qui disposent des dispositifs nécessaires. Et puis juste quand même sur l'Europe, on sait qu'on a tendance à privilégier la consommation, donc d'abord protéger les consommateurs avant les entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis où on va d'abord se tourner vers l'entreprise avant de...
C'est intéressant ce que dit Stéphane là, sur sa facture Total Energy, parce que tout à l'heure avec Laure, on était avec le patron du Duralex.
Oui.
Il nous dit les prix de l'électricité, je suis encore sur 800 euros le kilowattheure, je ne sais pas quelle unité, pour mars. Et à partir d'avril, j'ai négocié des contrats, sur deux trimestres seulement, 10 fois moins cher à 80 euros. Moi, ce que je ne comprends pas...
Le mégawattheure.
C'est le mégawattheure. Comment est-ce qu'on peut facturer 800 en mars et garantir du 80 sur le T2? Et pourquoi Total, il vous fait du 1600% sur l'année prochaine?
Et c'est sur un engagement, sans se démonter, il nous explique que ça peut être un an, deux ans, trois ans.
Oui, mais...
C'est-à-dire qu'en plus, on va se... Non, mais...
Pourquoi
chacun?
Moi, je pense que nos parlementaires doivent vraiment se poser la question cette fois-ci. Je le répète, moi, je ne suis pas pour taxer les super profits, que ce soit des artisans ou de nos champions à l'international. Mais quand j'observe que ces super champions, ces fournisseurs d'énergie se comportent aujourd'hui aussi mal que les assureurs se sont comportés pendant la fermeture administrative de nos établissements au sujet des pertes d'exploitation, il y a un sujet. Et ce sujet, on va se le prendre en main, parce que moi, j'ai travaillé presque jusqu'à 1h du matin hier, parce que ça, c'est pas possible. Je ne peux pas absorber 1600%, y compris avec une aide de l'État qui va, sur les 1 million d'euros, absorber 300 000. Vous imaginez bien
30%,
que...
30%, hein, c'est le nouveau dispositif. Ben,
C'est
énorme, mais c'est pas possible.
Mais
en fait,
c'est insupportable, en fait. Quand on est chef d'entreprise, on n'a pas la capacité d'absorber cette onde de choc.
David Gault, on voit quand même là le souci de compétitivité qu'on a. On entend Stéphane Manigault, quoi, vous dites je ferme, parce que vous ne pourrez pas...
Mais moi, comme des centaines de milliers d'artisans.
Duralex qui ferme une partie de son activité, c'est ça qui nous attend. Comment on peut faire juste pour passer... Là, on parle de passer l'hiver.
Oui, alors c'est peut-être l'approche des grands groupes aussi, qui est une approche à plus moyen-long terme. Et on voit dans ces ajustements et ces propositions que font les grands groupes aux distributeurs et aux... une tendance à, on le voit, hein, les hausses proposées sont entre 10 et 30%. C'est pas simplement sur les 6 prochains mois, c'est véritablement une logique interne d'entreprise d'avoir des projections sur 2 à 3 ans. Et c'est vrai que là, on a un choc entre le court terme et puis ces projections à plus long terme où finalement, ces grandes entreprises, elles se doivent de fournir à leurs actionnaires une vision au-delà des 6 prochains mois. Et c'est là qu'on a, un choc entre les plans à 3 ans.
À un moment, quand on massacre le tissu économique français, l'artisanat, les PME et TPE, souvent on le dit, et c'est vrai, les grandes entreprises font travailler les artisans, les TPE et les PME. Mais si elles disparaissent, il n'y a plus rien. On a beau protéger les ménages, comme vous le dites tout à l'heure, s'il n'y a plus d'entreprise qui emploie, le ménage, il sera protégé, il aura de l'électricité, mais il n'aura plus les moyens de se nourrir et il sera au chômage.
Raphaël.
Non, mais c'est vrai qu'après, on aurait pu imaginer que l'État continue dans le quoi qu'il en coûte, mais on voit bien qu'on est aussi en train de préparer à la sortie de ce quoi qu'il en coûte. Le FMI a demandé à la France d'accélérer la sortie. Donc finalement, il y a un moment donné où quelqu'un doit payer.
Quelqu'un doit payer, oui.
Si ça n'est pas l'État qui, comme depuis 2 ans, prend tout en charge.
C'est le consommateur, vous allez augmenter vos prix, Stéphane.
Mais on est sur un marché mondial. Je pense que la Fed se pose beaucoup moins de questions, hein, puisque Joe Biden a la main sur la Fed. Il en envie d'imprimer, il imprime.
Ah, il a et, priori, c'est la main sur la Fed, mais...
on le voit aujourd'hui, quand il y a des mécanismes de protection, si, quand on voit le prix de l'énergie aux États-Unis, ils se posent vraiment pas les questions existentielles qu'on se pose en Europe. Ils impriment et puis on verra après. Parce
quand on veut protéger notre tissu économique, on le fait aussi. On l'a fait pendant le Covid. On est quand même capable de considérer, quand on a un problème, de mettre la main...
Vous avez raison, mais là, on regarde dans le rétroviseur. Les morts, ils sont devant. Les morts des entreprises, c'est devant nous. Il faut arrêter de regarder dans les rétroviseurs. La crise énergétique, elle va balayer littéralement une entreprise. Vous pensez que celui qui est dans, qui investit dans l'acquisition d'entreprises, quand il prend une, il voit que l'entreprise pour laquelle il veut racheter, il y a une augmentation de 1600% du coût de l'énergie. Vous pensez qu'elle vaut combien cette entreprise? Elle vaut zéro. Elle vaut rien. Personne l'achète.
Bon, qu'est-ce qui nous attend en 2023? On va voir ça avec vous, David Gault, parce qu'on voit qu'on a des signaux très contradictoires qui viennent de Chine. Hein. D'un côté, on a l'impression que depuis quelques semaines et la réélection de Xi Jinping, il y a un retour du dialogue. On a vu Joe Biden, Xi Jinping. Et puis finalement, hop, on reconfine des régions entières, des usines qui ferment. On a vu l'usine Foxconn. Où en est la croissance mondiale? Quelles sont vos perspectives pour les prochains mois?
Bon, on va avoir une première moitié d'année extrêmement compliquée. Ah, on n'a encore rien vu au niveau des baisses d'activité. On va avoir un effet ciseau entre la chute des chiffres d'affaires et puis la hausse des coûts. Donc là, il faut se préparer à des chiffres. C'est assez classique, malheureusement, hein, mais c'est des baisses année sur année, des profits de 15 à 20%. Finalement, il y a un héritage de Covid qu'on a traîné depuis maintenant deux ans et demi, et c'est vrai qu'il va falloir solder un peu tout ce reste. Et
est-ce que la Chine, c'est l'homme malade du monde, là, avec l'incapacité à sortir de la crise du Covid?
Pas vraiment, non. La Chine sortira pas de Covid encore cet hiver. Hein. Clairement, il va falloir patienter jusqu'à mars-avril pour espérer une réouverture plus grande. La Chine a aussi intérêt à garder ses capitaux, ses consommateurs à l'intérieur du pays, autant que possible. Ouais. Donc, il y a aussi une logique économique derrière. En même temps, c'est un des rares pays qui devrait accélérer en termes de croissance l'année prochaine. On a des taux d'intérêt relativement bas par rapport aux États-Unis. Donc le pays en lui-même, il doit traiter sa crise immobilière. Donc il a des sujets internes importants, mais c'est sûr que sur la première moitié de l'année, le miracle ne viendra malheureusement pas de la Chine.
Raphaël Bloch.
Oui, non, mais c'est vrai que sur la Chine, ça fait maintenant plus de deux ans que le pays, alors sans être totalement fermé, fait à chaque fois du stop and go, si on ouvre les ports, on les referme. C'est vrai que moi, je m'interroge sur finalement l'espèce de stratégie presque économique de la Chine. qui imprime le tempo, c'est-à-dire qu'on en parle moins aujourd'hui, mais finalement on sait que les industries sont très dépendantes de la Chine, et c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le conflit en Ukraine, qui a un impact évident, mais on a peut-être trop tendance à minimiser ce qui se passe en Chine, et effectivement, avec ces deux éléments, si en 2023 la Chine ne repart pas davantage, ça pourrait continuer de nous maintenir dans une espèce de faux rythme où il se passe pas grand-chose, sachant qu'en plus avec l'énergie, on est encore plus ralenti.
Un mot des cryptos, Raphaël Bloch, puisque vous êtes avec nous. On a appris ce matin que Fidelity permettait à ses clients futurs retraités de placer leur retraite en crypto. Hier, on a eu la nouvelle présidente de l'AMF qui disait il faut que les cryptos montrent leur utilité, qu'on arrive à faire comprendre que c'est risqué. Ces gens-là qui ont placé leur argent en crypto, ces retraités, est-ce qu'ils avaient conscience, franchement, qu'il y avait un risque?
Alors, il y a deux choses à distinguer. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les investissements en crypto-monnaie. Ça fait deux semaines qu'on parle du scandale FTX, donc la plateforme qui s'est effondrée.
Là, ça concerne... Dès que Coinbase, ça va pas très fort non plus, là.
Alors, ça va pas très fort en bourse, mais c'est un acteur qui est régulé. Et finalement, même on parle de Coinbase comme étant un peu l'ETF du marché, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution des crypto-monnaies, Coinbase a tendance à monter ou baisser. Concernant Fidelity, c'est l'un des plus gros acteurs de la finance mondiale. Ils ont de mémoire des dizaines de millions de clients qui viennent effectivement placer leur argent, enfin placer leur épargne. Ils ont fait beaucoup d'actions pendant des années. Effectivement, ils s'ouvrent de plus en plus aux cryptos. Pourquoi? Parce qu'il y a tout bêtement un besoin de diversification. On sait qu'il n'y a pas assez de rendement, donc les gens vont chercher du risque. Et effectivement, les cryptoactifs, mais je ne parle pas des acteurs centralisés hein, comme FTX, je parle vraiment de l'actif en lui-même, permettent de diversifier les portefeuilles.
David?
C'est là que de temps en temps, il faut regarder du côté classique des banques privées, des multifamily office, et vous verrez que dans tous nos portefeuilles, en fait, il n'y a pas de crypto.
Il n'y a pas de crypto.
Voilà, alors donc on s'intéresse au sujet, on en parle beaucoup. Oui, tout à fait.
Mais
tout est question de timing, en fait. Il ne faut pas bousculer le calendrier et il faut s'y intéresser, il faut comprendre le sujet, mais il ne s'agit pas de mettre...
Il y en a qui vont trop vite, c'est ça que vous voulez dire.
Bien sûr, comme le... Alors, je prends une comparaison un peu différente, mais la technologie cloud, par exemple, existait dès le début des années 2000. On n'a pas parlé du cloud pendant 10-15 ans. Ça ne générait pas de résultats économiques, mais c'était déjà là, donc il fallait s'y intéresser. Les cryptos, c'est pareil, on en a encore pour 10 ans de micro-cycles avec des hauts et des bas. Alors, soit on est prêt à prendre ce risque, on s'y installe et puis on s'y accroche.
Mais... En général, il faut sur les cryptos mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre.
Voilà, et puis il faut y aller graduellement. C'est-à-dire qu'une fois que vous démarrez, vous allez chaque mois ajouter un petit peu.
Ils peuvent investir dans ce cas-là, dans le tissu économique de l'artisanat français. Hein,
mais c'est pour ça que quand je disais classique, c'est finalement de rester en
Stéphane Manigault.
Sérieusement, je veux parler d'une monnaie qui s'appelle chez nous le PGE, donc les prêts garantis par l'État, qui nous asphyxie, qui est, j'aimerais bien que ce soit une crypto-monnaie qui disparaisse pour que ça redonne en fait un bol d'air à toutes nos entreprises. Vous savez, les PGE, dans le fantasme du grand public, il n'y a que les restaurateurs qui en ont bénéficié. Ben non, les médias ont pu en bénéficier. D'ailleurs, les chaînes de télé, la presse écrite.
Pas sûr qu'on ait fait un PGE, nous.
Si. Ah ben, je ne sais pas si vous avez souscrit, mais en tout cas, vous y avez droit.
Oui.
Entre le droit et la souscription, c'est autre chose. Mais il faut que l'État, d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, maintienne sa promesse de candidat lorsqu'il l'était face à Marine Le Pen, où il a dit, et nos auditeurs vont comprendre, on les décalera, c'est du quasi-fonds propre. Je ne sais pas faire l'enfance.
Ça a été décalé un peu.
Non, le quasi-fonds propre, on l'attend. Bon. C'est une promesse du candidat Macron.
Vous avez entendu d'une certaine manière.
Ah non, Stéphane, il a répété trois fois. Bon. Je veux bien vous envoyer la séquence.
Non, mais alors, effectivement, je vois le parallèle entre PGE et crypto-monnaie. Mais c'est sûr que, effectivement, on a souvent tendance à opposer le monde réel, je veux dire, la restauration, les artisans, à tout l'écosystème crypto, même s'il se passe pas mal de choses, cet écosystème. On en parle souvent pour les scandales et on l'a fait ces dernières semaines, mais il y a aussi plein de projets solides et intéressants à suivre dans cet écosystème.
David,
cette crise, on en sortira par le haut, donc il ne faut pas non plus annihiler les innovations. Alors, elles sont maladroites, on voit des déperditions énormes, mais c'est vrai que tout ce qui est blockchain, tout ce qui est crypto, un jour ou l'autre, ça peut aussi faire partie de votre écosystème.
Mais vous avez raison.
Et donc, ça va fonctionner avec le temps.
On observe un restaurant dans le métaverse, on regarde un peu comment ça fonctionne. Vous savez, on n'est pas des retraités.
Il y a une réalité. Je suis d'accord avec vous, il y a une réalité économique qui est là.
Ce qui passe, moi j'aime beaucoup les nouvelles technologies.
De nouveaux et jeunes clients, ça passe aussi par ce type.
Mais on mange pas encore dans le métaverse. La seule limite.
Ça passe par plus de transparence. Moi, je suis favorable, et j'espère qu'Olivier Grégoire le fera, à ce que lorsque vous allez au restaurant et que vous ouvrez votre carte, eh bien, tout ce qui est industriel et surgelé se soit affiché comme nos amis italiens.
Très bien, c'est noté. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous dans Good Morning Media.